Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 2, chapitre 7. Retour, le doctorat, Karlstadt, serment de Luther, principe de la réforme, courage de Luther, première vue de réformation, les scolastiques, Spalatin, affaire de Reuchlin. Luther quitta Rome et revint à Wittenberg, le cœur rempli de tristesse et d'indignation. Détournant ses regards avec dégoût de la ville pontificale, il les portait avec espérance sur les saintes Écritures et sur cette vie nouvelle que la parole de Dieu semblait alors promettre au monde. Cette parole grandit dans son cœur de tout ce qui perdit l'Église. Il se détacha de l'une pour se tourner vers l'autre. Toute la Réformation fut dans ce mouvement-là. Elle mit Dieu où était le prêtre. Staupitz et les lecteurs ne perdaient pas de vue le moine qu'ils avaient appelé à l'université de Wittenberg. Il semble que le vicaire général eut un pressentiment de l'œuvre qu'il y avait à faire dans le monde, et que la trouvant trop forte pour lui, il voulut y pousser Luther. Rien de plus remarquable et peut-être de plus mystérieux que ce personnage qui se trouve partout pour précipiter le moine dans le chemin où Dieu l'appelle et puis qui va lui-même finir tristement ses jours dans un couvent. La prédication du jeune professeur avait fait impression sur le prince. Il avait admiré la force de son esprit, le nerf de son éloquence et l'excellence des choses qu'il exposait. L'électeur et son ami, voulant avancer un homme qui donnait de si grandes espérances, résolurent de lui faire prendre le grade élevé de docteur en théologie. Staupitz se rendit au couvent. Il conduisit Luther dans le jardin du cloître, et là, seul avec lui sous un arbre, que Luther aimait plus tard à montrer à ses disciples, le vénérable père lui dit « Il faut maintenant, mon ami, que vous deveniez docteur de la Sainte Écriture. » Luther recula cette pensée. Cet honneur éminent l'effrayait. « Cherchez-en un plus digne, » répondit-il. « Pour moi, je ne puis y consentir. » Le vicaire général insista. Le Seigneur Dieu a beaucoup à faire dans l'Église. Il a besoin maintenant de jeunes et vigoureux docteurs. Cette parole fut peut-être dite en badinant, ajoute Mélenchon. Cependant, l'événement y répondit, car d'ordinaire, beaucoup de présages précèdent les grandes révolutions. Il n'est pas nécessaire de supposer que Mélenchon parle ici de prophéties miraculeuses. Le siècle le plus incrédule, celui qui nous a précédés, a pu vérifier cette sentence. Que de présages annoncèrent sans qu'il y eût miracle la révolution qui le termina. « Mais je suis faible et maladif, » reprit Luther. « Je n'ai pas longtemps à vivre, cherchez un homme fort. » Le Seigneur, répondit le vicaire général, « a affaire dans le ciel comme sur la terre, mort ou vivant. Dieu a besoin de vous dans son conseil. » « Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse créer un docteur en théologie, » s'écria alors le moine, toujours plus épouvanté. « Faites ce que demande votre couvent, » dit Staupitz, « et ce que moi-même, votre vicaire général, je vous commande, car vous avez promis de nous obéir. »« Mais ma pauvreté, » reprit le frère, « je n'ai rien pour payer les dépenses qu'une telle promotion entraîne. »« Ne vous en inquiétez pas, » lui dit son ami, « le prince vous fait la grâce de se charger lui-même de tous les frais. » Pressé de toutes parts, Luther crut devoir se rendre. C'était vers la fin de l'été de l'an 1512. Luther partit pour Leipzig afin de recevoir des trésoriers de l'électeur l'argent nécessaire à sa promotion. Mais selon les usages des cours, l'argent n'arrivait pas. Le frère impatienté voulait partir. L'obéissance monacale le retint. Enfin, le 4 octobre, il reçut de Pfeffinger et de Jean d'Holtzig 50 florins. Il leur en donna quittance. Il ne prend dans ce reçu d'autre qualité que celle de moine. « Moi, Martin, dit-il, frère de l'ordre des ermites. » Luther se hâta de retourner à Wittenberg. André Bodenstein, de la ville de Karlstadt, était alors doyen de la faculté de théologie, et c'est sous le nom de Karlstadt que ce docteur est surtout connu. On l'appelait aussi l'ABC, ce fut Mélenchon qui le désigna d'abord ainsi à cause des trois initiales de son nom. Bodenstein acquit dans sa patrie les premiers éléments des lettres. Il était d'un caractère grave, sombre, peut-être enclin à la jalousie et d'un esprit inquiet, mais plein du désir d'apprendre et doué d'une grande capacité. Il parcourut diverses universités pour augmenter ses connaissances et il étudia la théologie à Rome même. Revenu d'Italie en Allemagne, il s'établit à Wittenberg et y devint docteur en théologie. À cette époque, dit-il lui-même plus tard, je n'avais pas encore lu la Sainte Écriture. Ce trait donne une idée très juste de ce qu'était la théologie d'alors. Karl Satt, outre ses fonctions de professeur, était chanoine et archidiacre. Voilà l'homme qui devait plus tard diviser la Réformation. Il ne voyait alors dans Luther qu'un inférieur, mais l'Augustin devint bientôt pour lui un objet de jalousie. « Je ne veux pas être moins grand que Luther », disait-il un jour. Bien éloigné alors de prévoir la grandeur à laquelle était destiné le jeune professeur, Karl Satt conféra à son futur rival la première dignité universitaire. Le 18 octobre 1512, Luther fut reçu licencié en théologie et prêta ce serment « Je jure de défendre la vérité évangélique de tout mon pouvoir ». Le jour suivant, Bodenstein lui remit solennellement, en présence d'une nombreuse assemblée, les insignes de docteur en théologie. Il fut fait docteur biblique et non docteur des sentences et fut appelé ainsi à se consacrer à l'étude de la Bible et non à celle des traditions humaines. Il prêta alors serment, comme il le rapporte lui-même, à sa bien-aimée et sainte Écriture. Il promit de la prêcher fidèlement, de l'enseigner purement, de l'étudier toute sa vie et de la défendre par ses disputes et par ses écrits contre tous les faux docteurs, autant que Dieu lui serait en aide. Ce serment solennel fut pour Luther sa vocation de réformateur. En imposant à sa conscience la sainte obligation de rechercher librement et d'annoncer courageusement la vérité chrétienne, ce serment éleva le nouveau docteur au-dessus des étroites limites où son vœu monastique l'eût peut-être confiné. Appelé par l'université, par son souverain, au nom de la majesté impériale et du siège de Rome lui-même, engagé devant Dieu par le serment le plus sacré, il fut dès lors le héros intrépide de la parole de vie. Dans ce jour mémorable, Luther fut armé chevalier de la Bible. Aussi ce serment prêté à la Sainte Écriture peut-il être regardé comme l'une des causes du renouvellement de l'Église. L'autorité seule infaillible de la parole de Dieu, tel fut le premier et fondamental principe de la Réformation. Toute réformation de détail opérée plus tard dans la doctrine, dans les mœurs, dans le gouvernement de l'Église et dans le culte, ne fut qu'une conséquence de ce premier principe. On peut à peine s'imaginer maintenant la sensation que dut produire cette vérité élémentaire, si simple mais méconnue pendant tant de siècles. Quelques hommes d'une vue plus vaste que le vulgaire en prévirent seuls les immenses conséquences. Bientôt, les voix courageuses de tous les réformateurs proclamèrent ce principe puissant au retentissement duquel Rome s'écroulera. Les chrétiens ne reçoivent d'autres doctrines que celles qui reposent sur les paroles expresses de Jésus-Christ, des apôtres et des prophètes. Nul homme, nulle assemblée de docteurs n'ont le droit d'en prescrire de nouvelles. La situation de Luther était changée. L'appel qu'il avait reçu devint pour le réformateur comme l'une de ces vocations extraordinaires que le Seigneur adressa aux prophètes sous l'ancienne alliance et aux apôtres sous la nouvelle. L'engagement solennel qu'il prit fit une si profonde impression sur son âme que le souvenir de ce serment suffit, dans la suite, pour le consoler au milieu des plus grands dangers et des plus rudes combats. Et lorsqu'il vit toute l'Europe agitée et ébranlée par la parole qu'il avait annoncée, lorsque les accusations de Rome, les reproches de plusieurs hommes pieux, les doutes et les craintes de son propre cœur, si facilement agité, semblaient pouvoir le faire hésiter, craindre et tomber dans le désespoir, il se rappela le serment qu'il avait prêté et demeura ferme, tranquille et rempli de joie. « Je me suis avancé au nom du Seigneur, dit-il, en une circonstance critique, et je me suis remis entre ses mains, que sa volonté s'accomplisse. Qui lui a demandé de me créer docteur? Si c'est lui qui m'a créé, qu'il me soutienne, ou bien, s'il se repent de l'avoir fait, qu'il me destitue. Cette tribulation ne m'épouvante donc point. Je ne cherche qu'une chose, c'est de me maintenir le Seigneur favorable dans tout ce qu'il m'appelle à faire avec lui. » Une autre fois, il disait, « Celui qui entreprend quelque chose sans vocation divine cherche sa propre gloire. Mais moi, le docteur Martin Luther, j'ai été contraint à devenir docteur. Le papisme a voulu m'arrêter dans l'acquis de ma charge. Mais vous voyez ce qui lui est arrivé. Et il lui arrivera bien pis encore. Ils ne pourront se défendre contre moi. Je veux, au nom de Dieu, marcher sur les lions et fouler aux pieds les dragons et les vipères. Cela se commencera pendant ma vie et se finira après ma mort. » Depuis l'heure de son serment, Luther ne chercha plus la vérité seulement pour lui-même. Il la chercha pour l'Église. Encore tout plein des souvenirs de Rome, il entrevit confusément devant lui une carrière dans laquelle il se promit de marcher avec toute l'énergie de son âme. La vie spirituelle qui jusqu'alors s'était manifestée au-dedans de lui s'étendit au dehors. Ce fut la troisième époque de son développement. L'entrée dans le couvent avait tourné vers Dieu ses pensées. La connaissance de la rémission des péchés et de la justice de la foi avait affranchi son âme. Le serment de docteur lui donna ce baptême de feu par lequel il devint réformateur de l'Église. Ses idées se portèrent bientôt d'une manière générale sur la réformation. Dans un discours qu'il avait écrit à ce qu'il semble pour être prononcé par le prévôt de Lietzlo au concile de Latran, il affirmait que la corruption du monde provenait de ce que les prêtres, au lieu de prêcher la pure parole de Dieu, enseignaient tant de fables et de traditions. La parole de la vie, selon lui, avait seule la puissance d'accomplir la régénération spirituelle de l'homme. Ainsi, déjà alors, c'était du rétablissement de la saine doctrine et non d'une simple réforme des mœurs qu'il faisait dépendre le salut du monde. Luther n'était pas entièrement d'accord avec lui-même, il entretenait encore des opinions contradictoires, mais un esprit puissant se faisait jour dans tous ses écrits. Il brisait courageusement les liens dont les systèmes des écoles enchaînaient les pensées des hommes. Il dépassait partout toutes les limites que les siècles passés avaient profondément creusées et se frayait des sentiers nouveaux. Dieu était avec lui. Les premiers adversaires qu'il attaqua furent ces fameux scolastiques qu'il avait lui-même tant étudiés et qui régnaient alors en souverain dans toutes les académies. Il les accusa de pélagianisme et, s'élevant avec force contre Aristote, le père de l'école, et contre Thomas d'Aquin, il entreprit de les jeter l'un et l'autre à bas du trône d'où il commandait, l'un à la philosophie et l'autre à la théologie. Aristote, Porphyre, les théologiens aux sentences, c'est-à-dire les scolastiques, écrivait-il à l'ange, sont les études perdues de notre siècle. Je ne désire rien de plus ardemment que de dévoiler à plusieurs cet histrion qui s'est joué de l'Église en se couvrant d'un masque grec et de montrer à tous son ignominie. Dans toutes les disputes publiques, on l'entendait répéter, les écrits des apôtres et des prophètes sont plus certains et plus sublimes que tous les sophismes et toute la théologie de l'école. De telles paroles étaient nouvelles, mais peu à peu on s'y habituait. Environ un an après, il put écrire avec triomphe, Dieu opère, notre théologie et saint Augustin avancent admirablement et règnent dans notre université. Aristote décline, il est déjà penché vers sa ruine prochaine et éternelle. Les leçons sur les sentences donnent un admirable ennui. Nul ne peut espérer d'avoir des auditeurs s'il ne professe pas la théologie biblique. Heureuse l'université dont on peut rendre un tel témoignage. En même temps que Luther attaquait Aristote, il prenait le parti d'Érasme et de Reuchlin contre leurs ennemis. Il entra en relation avec ces grands hommes et avec d'autres savants tels que Pikheimer, Mutian, Hutten, qui appartenaient plus ou moins au même parti. Il forma aussi à cette époque une autre amitié qui fut d'une haute importance pour toute sa vie. Un homme remarquable par sa sagesse et sa candeur se trouvait alors à la cour de l'électeur. C'était Georges Spalatin. Né à Spalatus ou Spalte dans l'évêché d'Eichstätt, il avait d'abord été curé du village de Hohenkirch près des forêts de la Thuringe. Il fut ensuite choisi par Frédéric le Sage pour être son secrétaire, son chapelain et le précepteur de son neveu Jean-Frédéric qui devait un jour porter la couronne électorale. Spalatin était un homme simple au milieu de la cour. Il paraissait craintif en présence des grands événements, circonspect et prudent, comme son maître, en face de l'ardent Luther, avec qui il était dans une correspondance journalière. Comme Staupitz, il était fait plutôt pour des temps paisibles. De tels hommes sont nécessaires. Ils sont comme ces matières délicates dont on enveloppe les bijoux et les cristaux pour les garantir des secousses du voyage. Elles semblent inutiles, cependant sans elles, tous ces joyaux précieux eussent été brisés et perdus. Spalatin n'était pas un homme propre à faire de grandes choses, mais il s'acquittait fidèlement et sans bruit de la tâche qui lui était donnée. Il fut d'abord un des principaux aides de son maître pour recueillir ses reliques de saints dont Frédéric fut longtemps grand amateur. Mais peu à peu, il se tourna avec le prince vers la vérité. La foi qui reparaissait alors dans l'Église ne le saisit pas vivement comme Luther. Il fut conduit par des voies plus lentes. Il devint l'ami de Luther à la cour, le ministre par lequel passaient toutes les affaires entre le réformateur et les princes, le médiateur entre l'Église et l'État. L'électeur Honoré Spalatin d'une grande intimité. En voyage, ils étaient toujours dans la même voiture. Du reste, l'air de la cour étouffait souvent le bon chapelain. Il lui prenait de profondes tristesses. Il eût voulu laisser tous ses honneurs et redevenir simple pasteur dans les bois de la Thuringe. Mais Luther le consolait et l'exhortait à demeurer ferme à son poste. Spalatin s'acquit l'estime générale. Les princes et les savants de son temps lui témoignaient les plus sincères égards. Erasme disait « J'inscris le nom de Spalatin non seulement entre ceux de mes principaux amis, mais encore entre ceux de mes protecteurs les plus vénérés, et cela non sur du papier, mais dans mon propre cœur. » L'affaire de Rochelin et des moines faisait alors grand bruit en Allemagne. Les hommes les plus pieux étaient souvent indécis sur le parti qu'ils devaient embrasser, car les moines voulaient détruire des livres judaïques où se trouvaient des blasphèmes contre le Christ. L'électeur chargea son chapelain de consulter à cet égard le docteur de Wittenberg, dont la réputation était déjà grande. Voici la réponse de Luther, c'est la première lettre qu'il adressa au prédicateur de la cour. « Que dirais-je? Ces moines prétendent chasser Belzébuth, mais ce n'est pas par le doigt de Dieu. Je ne cesse de m'en plaindre et d'en gémir. Nous autres chrétiens, nous commençons à être sages au dehors et chez nous, nous sommes hors de sens. Il y a sur toutes les places de Jérusalem des blasphèmes 100 fois pires que ceux des Juifs, et tout y est rempli d'idoles spirituelles. Nous devrions, plein d'un beau zèle, enlever et détruire ces ennemis intérieurs. Mais nous laissons ce qui nous presse, et le diable lui-même nous persuade d'abandonner ce qui est à nous, en même temps qu'il nous empêche de corriger ce qui est aux autres. » Livre 2, chapitre 8. La foi. Déclaration populaire. Enseignement académique. Pureté morale de Luther. Théologie allemande ou mysticisme. Le moine Spenlein. Justification par la foi. Luther sur Erasme. La foi et les œuvres. Erasme. Nécessité des œuvres. Pratique des œuvres. Luther ne se perdit point dans cette querelle. La foi vivante en Christ, voilà ce qui remplissait surtout son cœur et sa vie. « Dans mon cœur, disait-il, règne seul et doit aussi seul régner la foi en mon Seigneur Jésus-Christ, qui est seul le commencement, le milieu et la fin de toutes les pensées qui occupent mon esprit, nuit et jour. » Tous ses auditeurs l'entendaient avec admiration parler de cette foi en Jésus-Christ, soit dans la chair du professeur, soit dans le temple. Ses enseignements répandaient la lumière. On s'étonnait de n'avoir pas reconnu plus tôt des vérités qui paraissaient si évidentes dans sa bouche. Le désir de se justifier soi-même est la source de toutes les angoisses du cœur, disait-il. Mais celui qui reçoit Jésus-Christ comme sauveur a la paix, et non seulement la paix, mais la pureté du cœur. Toute sanctification du cœur est un fruit de la foi, car la foi est en nous une œuvre divine qui nous change et nous donne une naissance nouvelle émanant de Dieu même. Elle tue Adam en nous, et par le Saint-Esprit qu'elle nous communique, elle nous donne un nouveau cœur et nous rend des hommes nouveaux. « Ce n'est pas par des spéculations creuses, s'écriait-il encore, mais c'est par cette voie pratique que l'on peut obtenir une connaissance salutaire de Jésus-Christ. » Ce fut alors que Luther prêcha sur les 10 commandements des discours qui nous ont été conservés sous le titre de « Déclamation populaire ». Sans doute, il s'y trouve encore des erreurs. Luther ne s'éclairait lui-même que peu à peu. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui augmente son éclat jusqu'à ce que le jour soit en sa perfection, dit le livre des Proverbes. Mais que de vérité dans ces discours, que de simplicité, que d'éloquence, que l'on comprend bien l'effet que le nouveau prédicateur devait produire sur son auditoire et sur son siècle. Nous n'en citerons qu'un passage pris au commencement. Luther monte dans la chaire de Wittenberg et lit ses paroles. « Tu n'auras point d'autre Dieu. » Puis, s'adressant au peuple qui remplit le sanctuaire, il dit « Tous les fils d'Adam sont idolâtres et coupables contre ce premier commandement. » Sans doute, cette assertion étrange surprend les auditeurs. Il s'agit de la justifier. L'orateur poursuit. Il y a deux genres d'idolâtrie, l'une du dehors, l'autre du dedans. Celle du dehors où l'homme adore le bois, la pierre, les bêtes, les étoiles. Celle du dedans où l'homme craignant le châtiment ou cherchant ses aises ne rend pas de culte à la créature mais l'aime intérieurement et se confie en elle. Quelle religion est celle-ci? Vous ne fléchissez pas le genou devant les richesses et les honneurs, mais vous leur offrez votre cœur, la partie la plus noble de vous-même. Ah, vous adorez Dieu du corps et de l'esprit, la créature. Cette idolâtrie règne en tout homme, jusqu'à ce qu'il en soit guéri gratuitement par la foi qui est en Jésus-Christ. Et comment cette guérison s'accomplit-elle? Le voici. La foi en Christ vous ôte toute confiance en votre sagesse, en votre justice, en votre force. Elle vous apprend que si Christ ne fut mort pour vous et ne vous eût ainsi sauvé, ni vous, ni aucune créature n'eussiez pu le faire. Alors vous apprenez à mépriser toutes ces choses qui vous demeuraient inutiles. Il ne vous reste plus que Jésus, Jésus seul, Jésus suffisant pleinement à votre âme. N'espérant plus rien de toutes les créatures, vous n'avez plus que Christ duquel vous espérez tout et que vous aimez par-dessus tout. Or, Jésus est le seul, l'unique, le véritable Dieu. Quand vous l'avez pour Dieu, vous n'avez plus d'autre Dieu. C'est ainsi que Luther montre comment l'âme est ramenée à Dieu, son souverain bien, par l'Évangile. Suivant cette parole de Christ, « Je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi ». L'homme qui parle ainsi à son siècle ne veut pas seulement renverser quelques abus. Il veut avant tout établir la religion véritable. Son œuvre n'est pas seulement négative, elle est premièrement positive. Luther tourne ensuite son discours contre les superstitions qui remplissaient alors la chrétienté, les signes et les caractères mystérieux, les observations de certains jours et de certains mois, les démons familiers, les fantômes, l'influence des astres, les maléfices, les métamorphoses, les incubes et les succubes, le patronage des saints, etc., etc. Il attaque l'une après l'autre ses idoles et jette bas victorieusement ses faux dieux. Mais c'était surtout à l'Académie, devant une jeunesse éclairée et avide de vérité, que Luther exposait tous les trésors de la parole de Dieu. Il expliquait de telle manière les Écritures, dit son illustre ami Mélenchon, que d'après le jugement de tous les hommes pieux et éclairés, c'était comme si un jour nouveau se fût levé sur la doctrine après une longue et profonde nuit. Il montrait la différence qui existe entre la loi et l'Évangile. Il réfutait cette erreur, dominant alors dans les églises et dans les écoles, que les hommes méritent par leurs propres œuvres la rémission des péchés et sont rendus justes devant Dieu par une discipline du dehors. Il ramenait ainsi les cœurs des hommes au Fils de Dieu. Comme Jean-Baptiste, il montrait l'agneau de Dieu qui apportait les péchés du monde. Il faisait comprendre que les péchés sont pardonnés gratuitement à cause du Fils de Dieu et que l'homme reçoit ce bienfait par la foi. Il ne changeait rien dans les cérémonies. La discipline établie n'avait pas, au contraire, dans son ordre, un observateur et un défenseur plus fidèle. Mais il s'efforçait de plus en plus de faire comprendre à tous ces grandes et essentielles doctrines de la conversion, de la rémission des péchés, de la foi et des vraies consolations qui se trouvent dans la croix. Les âmes pieuses étaient saisies et pénétrées de la douceur de cette doctrine. Les savants la recevaient avec joie. On eût dit que Christ, les apôtres et les prophètes sortaient des ténèbres et d'un cachot impur. La fermeté avec laquelle Luther s'appuyait sur l'Écriture donnait à son enseignement une grande autorité. Mais d'autres circonstances ajoutaient encore à sa force. Chez lui, la vie répondait aux paroles. On savait que ce n'était pas sur ses lèvres que prenaient naissance ses discours. Il provenait du cœur et était mis en pratique dans toutes ses œuvres. Et quand plus tard la Réformation éclata, beaucoup d'hommes influents qui voyaient avec une grande douleur les déchirements de l'Église gagnaient à l'avance par la sainteté des mœurs du réformateur et la beauté de son génie, non seulement ne s'opposèrent point à lui, mais encore embrassèrent la doctrine à laquelle ses œuvres rendaient témoignage. Plus on aimait les vertus chrétiennes, plus on penchait pour le réformateur. Tous les théologiens honnêtes étaient en sa faveur. Voilà ce que disent ceux qui le connurent, et en particulier l'homme le plus sage de son siècle, Mélenchon, et l'illustre adversaire de Luther, Érasme. L'envie et les préjugés ont osé parler de ses débauches. Wittenberg était changé par cette prédication de la foi. Cette ville était devenue le foyer d'une lumière qui devait éclairer bientôt l'Allemagne et se répandre sur toute l'Église. Ce fut en 1516 que Luther publia un écrit d'un théologien mystique anonyme, probablement Eblon, prêtre à Francfort, intitulé « Théologie allemande », où l'auteur montre comment l'homme peut parvenir à la perfection par les trois voies de la purification, de l'illumination et de la communion. Luther ne se jeta jamais dans la théologie mystique, mais il en reçut une impression salutaire. Elle le fortifia dans le dégoût que lui inspirait une aride scolastique, dans son mépris pour les œuvres et les pratiques tant prônées par l'Église, dans la conviction où il était de l'impuissance spirituelle de l'homme et de la nécessité de la grâce, et dans son attachement à la Bible. « Je préfère aux scolastiques, écrivait-il à Staupitz, les mystiques et la Bible », plaçant ainsi ces derniers docteurs à côté des écrivains sacrés. Peut-être aussi la théologie allemande l'aida-t-elle à se former une idée plus saine des sacrements et surtout de la messe, car l'auteur insiste sur ce que l'Eucharistie donne Christ à l'homme, mais n'offre pas Christ à Dieu. Luther accompagna cette publication d'une préface dans laquelle il déclarait qu'après la Bible et saint Augustin, il n'avait jamais rencontré de livre dont il eût plus appris sur Dieu, Christ, l'homme et toute chose. Déjà plusieurs docteurs parlaient mal des professeurs de Wittenberg et les accusaient d'innovation. On dirait, continue Luther, qu'il n'y a jamais eu auparavant des hommes qui aient enseigné comme nous. Oui, vraiment, il y en a eu, mais la colère de Dieu que nos péchés ont mérité a empêché que nous les vissions et que nous les entendissions. Pendant longtemps, les universités ont relégué dans un coin la parole de Dieu. Que l'on lise ce livre et que l'on me dise si notre théologie est nouvelle, car ce livre n'est pas nouveau. Mais si Luther prit dans la théologie mystique ce qu'il pouvait y avoir de bon, il n'y prit pas ce qu'elle a de mauvais. La grande erreur du mysticisme est de méconnaître le salut gratuit. Nous allons avoir un exemple remarquable de la pureté de sa foi. Luther, doué d'un cœur affectueux et tendre, désirait voir ce qu'il aimait en possession de cette lumière qui l'avait guidé au sentier de la paix. Il profitait de toutes les occasions qu'il avait comme professeur, comme prédicateur, comme moine, ainsi que de sa correspondance étendue pour communiquer à d'autres son trésor. Un de ses anciens frères du couvent d'Erfurt, le moine Georges Spenlein, se trouvait alors dans le couvent de Memmingen, après avoir peut-être passé quelque temps à Wittenberg. Spenlein avait chargé le docteur de vendre divers objets qu'il lui avait laissés, une tunique d'étoffe de Bruxelles, un ouvrage d'un docteur d'Isenac et un capuchon. Luther s'acquitta soigneusement de cette commission. « Il a eu, dit-il à Spenlein, dans une lettre du 7 avril 1516, un florin pour la tunique, un demi-florin pour le livre, un florin pour le capuchon » et il a remis le tout au père vicaire à qui Spenlein devait 3 florins. Mais Luther passe promptement de ce compte de dépouille monacale à un sujet plus important. « Je voudrais bien, dit-il au frère Georges, savoir ce que devient ton âme. N'est-elle pas fatiguée de sa propre justice? Ne respire-t-elle pas enfin et ne se confie-t-elle pas dans la justice de Christ? De nos jours, l'orgueil en séduit plusieurs, et surtout ceux qui s'appliquent de toute leur force à être justes. Ne comprenant pas la justice de Dieu qui nous est donnée gratuitement en Jésus-Christ, ils veulent subsister devant lui avec leur mérite. Mais cela ne se peut. Quand tu vivais avec nous, tu étais dans cette erreur, et j'y étais aussi. Je la combats encore sans cesse, et je n'en ai point entièrement triomphé. Ô mon cher frère, apprends à connaître Christ et Christ crucifié. Apprends à lui chanter un nouveau cantique, à désespérer de toi-même et à lui dire « Toi, Seigneur Jésus, tu es ma justice, et moi, je suis ton péché. Tu as pris ce qui est à moi, et tu m'as donné ce qui est à toi. Ce que tu n'étais pas, tu l'es devenu, afin que ce que je n'étais pas, je le devinsse. Prends garde, ô mon cher Georges, de ne pas prétendre à une pureté telle que tu ne veuilles plus te reconnaître pécheur. Car Christ n'habite que dans les pécheurs. Il est descendu du ciel où il habitait dans les justes, afin d'habiter aussi dans les pécheurs. Médite avec soin cet amour de Christ, et tu en savoureras l'ineffable consolation. Si nos travaux et nos afflictions pouvaient nous donner le repos de la conscience, pourquoi Christ serait-il mort? Tu ne trouveras la paix qu'en lui, en désespérant de toi et de tes œuvres, et en apprenant avec quel amour il t'ouvre les bras, prenant sur lui tous tes péchés et te donnant toute sa justice. Ainsi, la doctrine puissante qui avait déjà sauvé le monde au temps des apôtres et qui devait le sauver une seconde fois au temps des réformateurs était exposée par Luther avec force et avec clarté. Passant par-dessus des siècles nombreux d'ignorance et de superstition, il donnait ici la main à saint Paul. Spenlein ne fut pas le seul qu'il chercha à instruire sur cette doctrine fondamentale. Le peu de vérité qu'il trouvait à cet égard dans les écrits d'Érasme l'inquiétait. Il importait d'éclairer un homme dont l'autorité était si grande et le génie si admirable. Mais comment faire? Son ami de cour, le chapelain de l'électeur, était respecté d'Érasme. C'est à lui que Luther s'adresse. « Ce qui me déplaît dans Érasme, cet homme d'une si grande érudition, mon cher Spalatin, lui écrit-il, c'est que par la justice des œuvres ou de la loi dont parle l'apôtre, il entend l'accomplissement de la loi cérémonielle. La justification de la loi ne consiste pas seulement dans les cérémonies, mais dans toutes les œuvres du décalogue. Quand ces œuvres s'accomplissent hors de la foi en Christ, elles peuvent, il est vrai, faire des Fabricius, des Régulus et d'autres hommes parfaitement intègres aux yeux du monde, mais elles méritent alors aussi peu d'être nommées justice que le fruit d'un néflier d'être appelé figue. Car nous ne devenons pas justes, comme Aristote le prétend, en faisant des œuvres de justice, mais quand nous sommes devenus justes, nous faisons de telles œuvres. Il faut d'abord que la personne soit changée, ensuite les œuvres. Abel fut d'abord agréable à Dieu, et puis son sacrifice. Luther continue. « Je vous en prie, remplissez le devoir d'un ami et d'un chrétien en faisant connaître ces choses à Érasme. » Cette lettre est datée ainsi. « À la hâte, du coin de notre couvent, le 19 octobre 1516. » Elle met sous leur véritable jour les rapports de Luther avec Érasme. Elle montre l'intérêt sincère qu'il portait à ce qu'il croyait être vraiment avantageux à cet illustre écrivain. Sans doute, plus tard, l'opposition d'Érasme à la vérité le força à le combattre ouvertement, mais il ne le fit qu'après avoir cherché à éclairer son antagoniste. On entendait donc enfin exposer des idées à la fois claires et profondes sur la nature du bien. On proclamait donc ce principe que ce qui fait la bonté réelle d'une œuvre, ce n'est pas sa forme extérieure, mais l'esprit dans lequel elle est accomplie. C'était porter un coup de mort à toutes les observances superstitieuses qui depuis des siècles étouffaient l'Église et empêchaient les vertus chrétiennes d'y croître et d'y prospérer. « Je lis Érasme, écrit encore Luther, mais il perd de jour en jour de son crédit auprès de moi. J'aime à le voir reprendre avec tant de science et de fermeté les prêtres et les moines de leur croupissante ignorance, mais je crains qu'il ne rende pas de grand service à la doctrine de Jésus-Christ. Ce qui est de l'homme lui tient plus à cœur de ce qui est de Dieu. Nous vivons dans des temps dangereux. On n'est pas un bon et judicieux chrétien parce qu'on comprend le grec et l'hébreu. Jérôme, qui savait 5 langues, est inférieur à Augustin qui n'en comprenait qu'une, bien qu'Érasme pense le contraire. Je cache avec grand soin mon sentiment touchant Érasme, dans la crainte de donner gain de cause à ses adversaires. Peut-être le Seigneur lui donnera-t-il l'intelligence en son temps. L'impuissance de l'homme, la toute-puissance de Dieu, telles étaient les deux vérités que Luther voulait rétablir. C'est une triste religion et une triste philosophie que celle qui renvoie l'homme à ses forces naturelles. Les siècles les ont essayées, ces forces si vantées. Et tandis que l'homme est parvenu par lui-même à des choses admirables en ce qui concerne son existence terrestre, il n'a jamais su ni dissiper les ténèbres qui cachent à son esprit la connaissance du vrai Dieu, ni changer un seul penchant de son cœur. Le plus haut degré de sagesse qui est atteint des intelligences ambitieuses ou des âmes brûlantes du désir de la perfection, a été de désespérer d'elle-même. C'est donc une doctrine généreuse, consolante et souverainement vraie que celle qui nous dévoile notre impuissance pour nous annoncer une puissance de Dieu par laquelle nous pourrons toutes choses. Elle est grande, cette réformation qui revendique sur la terre la gloire du ciel et qui plaide auprès des hommes les droits du Dieu fort. Mais personne ne connut mieux que Luther l'alliance intime et indissoluble qui unit le salut gratuit de Dieu et les œuvres libres de l'homme. Personne ne montra mieux que lui que ce n'est qu'en recevant tout de Christ que l'homme peut beaucoup donner à ses frères. Il présentait toujours ces deux actions, celle de Dieu et celle de l'homme, dans le même tableau. C'est ainsi qu'après avoir exposé au frère Spenlein quelle est la justice qui sauve, il ajoute « Si tu crois fermement ces choses, comme tu le dois, car maudit est quiconque ne les croit pas, accueille les frères encore ignorants et errants comme Jésus-Christ t'a accueilli toi-même. Supporte-les avec patience. Fais de leurs péchés les tiens propres, et si tu as quelque chose de bon, communique le leur. Recevez-vous les uns les autres, dit l'apôtre, comme aussi Christ nous a reçus pour la gloire de Dieu. C'est une triste justice que celle qui ne veut pas supporter les autres parce qu'elle les trouve mauvais et qui ne pense qu'à chercher la solitude du désert au lieu de leur faire du bien par la patience, la prière et l'exemple. Si tu es le lys et la rose de Christ, sache que ta demeure est parmi les épines. Seulement, prends garde que par ton impatience, tes jugements téméraires et ton orgueil caché, tu ne deviennes toi-même une épine. Christ règne au milieu de ses ennemis. S'il n'avait voulu vivre que parmi les bons et ne mourir que pour ceux qu'il aimait, pour qui, je te le demande, fut-il mort et au milieu de qui eût-il vécu? Il est touchant de voir comment Luther mettait lui-même en pratique ses préceptes de charité. Un Augustin d'Erfurt, Georges Leifer, était en butte à plusieurs épreuves. Luther l'a pris et, 8 jours après avoir écrit la lettre à Spenlein, il vint à lui avec compassion. « J'apprends que vous êtes agité par bien des tempêtes et que votre esprit est poussé çà et là par les flots. La croix de Christ est divisée par toute la terre et il en revient chacun sa part. Vous donc, ne rejetez pas celle qui vous est échue. Recevez-la plutôt comme une relique sainte, non dans un vase d'or ou d'argent, mais ce qui est bien préférable, dans un cœur d'or, dans un cœur plein de douceur. Si le bois de la croix a été tellement sanctifié par le sang et la chair de Christ, que nous le considérions comme la relique la plus auguste, combien plus les injures, les persécutions, les souffrances, la haine des hommes doivent-elles être pour nous de saintes reliques, puisqu'elles n'ont pas été seulement touchées par la chair de Christ, mais qu'elles ont été embrassées, bénies par son immense charité. »